Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous dans Résonance. Ne cherchez pas ailleurs, tendez l'oreille sur Radio B avec Résonance, le rendez-vous radiophonique de Résonance Contemporaine, pôle ressources départementales et régionales, culture et handicap, musique contemporaine. Pour vous et avec vous, chaque émission prend un visage, un aspect, une forme différente pour rendre compte de la pluralité des expressions humaines, pour prendre du plaisir, celui de la découverte et nourrir le penser. Résonance cherche à mettre en mouvement nos pensées par le biais de réflexions, de thématiques, de démarches artistiques que nous aimons partager régulièrement avec vous, soit sous la forme de rubriques ou de rendez-vous. C'est ainsi que depuis le début de cette saison radiophonique 2017-2018, nous nous glissons lors de chacune de nos émissions dans les pas du compositeur canadien d'origine espagnole José Evangelista. Nous cheminons en sa compagnie, sachant, comme l'écrit Gilles Deleuze, que le chemin n'a pas de début ni de fin, qu'il lui appartient de maintenir son début et sa fin cachée, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Sinon, ce ne serait plus un chemin, il n'existe comme chemin qu'au milieu. Fin de citation. Alors on est toujours au milieu d'un chemin, au milieu de quelque chose, et aujourd'hui, le milieu, c'est cela avec José Evangelista.
Derrière le gardien. Depuis des temps et des temps, ils étaient là, le pote et le gardien, mais la pote. Dans sa vie, auparavant, il a déjà été gardien de phare et gardien d'océan, gardien du hasard et gardien du temps, gardien de gare et gardien d'enfer. Il a gardé de l'or et des canons, des livres et des tombeaux.
Pas
peut-être, peut-être, mais pas maintenant.
Résonance sur Radio B pour rendre audible l'inaudible, pour accueillir toutes les capacités parlantes. Nous avions découvert lors d'une émission précédente un premier monodrame conçu à partir d'un texte du poète belge Henri Michaux, un certain Plume, que José Evangelista avait choisi de nous raconter en musique. Aujourd'hui, nous venons d'entendre l'introduction d'un second monodrame intitulé « La Porte », imaginé toujours musicalement par José Evangelista à partir d'un livret réalisé cette fois-ci par Alexis Nous, que nous venons d'entendre. Alexis Nous écrit ceci « Si tu ne peux pas prier, raconte une histoire. Si tu n'en connais pas, chante. Si tu ne sais pas chanter, apprends le silence. Au fond du désert, d'un rêve ou d'une mémoire, un vieux sage confiait son secret à qui voulait l'entendre. Pour les autres, le vent soufflait et dessinait des formes sur le sable des jours enfouis. » Cette trame narrative du livret que propose Alexis Nous s'inspire du récit de « Devant la loi » de Kafka. Qu'entend-on par monodrame ? Un monodrame, c'est une voix solo qui raconte en musique une histoire. Le style vocal met ici une voix de femme et la percussion et met en évidence l'un et l'autre les différents niveaux du texte, la narration générale et les différents personnages. Et là, l'introduction que nous avons pu entendre il y a quelques instants était interprétée par Pauline Vaillancourt, soprano, et Julien Grégoire, à la percussion sur un livret d'Alexis Nous. Résonance sur Radio B pour rendre audible l'inaudible, pour accueillir toutes les capacités parlantes. Nous évoquions le monodrame et nous disions il y a quelques instants que c'est une histoire que l'on raconte et il y a de multiples manières de raconter une histoire, un récit, par l'action musicale, le jeu scénique, les poèmes lyriques, le théâtre musical, le théâtre instrumental et l'opéra. Et c'est tout autour de l'opéra, justement, et en particulier autour de cette forme, que cette nouvelle émission a été imaginée, notamment à partir de la création, en novembre dernier, dans le cadre du Festival Loop, organisé par le Forum des compositeurs à Bruxelles et du Festival Ars Musica. La lettre volée, opéra imaginé par le compositeur Denis Boss. Résonance sur Radio B pour rendre audible l'inaudible, pour accueillir toutes les capacités parlantes. Alors pour parler d'opéra et notamment pour parler de la lettre volée, j'ai le grand plaisir d'accueillir au téléphone depuis Bruxelles deux invités, Denis Boss et Pascal Notet. Bonjour Denis Boss.
Bonjour,
bienvenue. Vous êtes compositeur et pédagogue. Et puis, à vos côtés, il y a donc Pascal Notet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, pour votre part, poète, philosophe et psychanalyste. Et vous vivez, bien sûr, l'un et l'autre à Bruxelles. Alors, bienvenue à tous les deux dans cette émission de Résonance. Tout à l'heure, en début d'émission, avec José Evangelista, on a évoqué son monodrame La Porte. Puis aussi, juste il y a quelques instants, Denis Boss, on vient d'entendre un extrait aussi d'une lettre adressée à Julianne Desromes, par vous, justement, Denis Boss. Et cet extrait que nous venons d'entendre de cette lettre à Julianne Desromes est interprété au violon par elle-même, hein, membre du trio Fina Bonacci. Et ce trio Fina Bonacci était établi également à Montréal depuis 1998, où il défend ardemment la musique d'aujourd'hui. Une manière d'inviter nos auditeurs à tendre l'oreille vers l'univers musical qui est le vôtre, Denis Boss. Alors, du coup, peut-être évoquons quelques instants ce parcours. Rappelons que votre terre natale, c'est la région bordelaise, en tout cas, et que donc française, et que votre chemin vous a conduit petit à petit à vous amener à vous établir en Belgique. Et comment s'est fait d'abord cette entrée en musique, je dirais, dans du côté de Bordeaux?
C'était une rencontre avec la classe de composition du conservatoire de région à Bordeaux il y a déjà bien longtemps,
ouais.
Qui était à l'époque dirigée par Michel Fustet-Lambeza, et puis aussi par suite avec d'autres personnalités comme François Rosset et Étienne Rollin.
C'est ça, des grandes personnalités aussi dont on a pu aussi déjà accueillir dans cette émission, je pense notamment à François Rosset. Et puis je crois qu'au départ, vous étiez plutôt parti sur un chemin qui vous entraînait petit à petit vers une carrière scientifique, mais qu'à un moment donné, c'est plutôt la musique qui s'imposa.
Exactement, oui, c'était un choix très important et pas toujours facile, qui n'a pas été essentiellement facile à faire, mais bon, voilà, oui, la musique s'est imposée, disons. Et voilà. Puis ensuite, j'ai rencontré Jacqueline Fontaine, qui était venue à Bordeaux pour un jury,
ouais.
et qui m'a invité dans sa classe à Bruxelles.
Voilà, c'est là où vous avez commencé à choisir de changer de territoire, et petit à petit ce travail, vos études en tout cas au conservatoire de Bruxelles et aussi peut-être de Liège aussi également.
C'est ça, alors par la suite, voilà, je suis allé au conservatoire de Liège où là j'ai travaillé avec Frédéric Chesky, ce qui était tout un univers très différent.
C'est ça.
Mmh.
Et puis du coup, c'est bien sûr un certain nombre de liens forts, un tissage de liens qui se font avec des ensembles, des musiciens, d'autres compositeurs. Il y a aussi toute une dynamique bruxelloise et belge aussi dans le champ de la musique contemporaine, peut-être un peu différente de celle que nous vivons ici en France.
Ah oui, tout à fait. Bon, à l'époque, en tout cas, c'était surtout Liège qui était encore très dynamique. Henri Pousseur était toujours vivant et donc... on bénéficiait régulièrement de ces conférences et de ces interventions. Mmh. Et puis j'ai travaillé là avec des compositeurs belges passionnants comme Baudouin Dejarre ou bien Michel Fourgon, Jean-Yves Coleman.
Oui, voilà. Donc,
tout ça sont des gens que j'ai rencontrés à ce moment-là. Et puis beaucoup d'instrumentistes. Il y avait l'ensemble Musique Nouvelle dirigé par Jean-Pierre Peuvion. Il y avait Pierre Bartholomé aussi. Enfin, c'était tout un monde... très enrichissant.
Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être une... Alors, ne serait-ce que parce que nous nous sommes rencontrés déjà à deux reprises, nous-mêmes à Bruxelles, lors de déplacements, est-ce qu'il y a un état d'esprit différent? Est-ce qu'il y a une envie différente, en tout cas, d'être ensemble et de faire cette musique aussi par rapport à ce que la situation française?
Il me semble, disons que je ne suis plus trop au courant de la situation en France, mais il me semble qu'en fait, ici, il y a peut-être une plus grande ouverture et tolérance esthétique, je dirais ça comme ça.
Oui, c'est un petit peu le sentiment que je ressens lorsque je me déplace là-bas. Et puis nous avons écouté ensemble un concert aussi dans le cadre du Festival Loop. Mais effectivement, quand on rencontre les gens, quand on échange avec eux, quand on les voit faire aussi, quand on les voit être aussi en musique, on a un peu ce sentiment, effectivement. Alors peut-être, Denis Boss, on va, si vous le voulez bien, évoquer cet événement, car on peut parler d'événements, bien évidemment. En novembre dernier, avec la création de votre opéra de chambre, La Lettre volée, et c'était la 10e édition du Festival Loop qui se déroule à Bruxelles. Le directeur artistique de cette manifestation est Lorenzo Carola. Et donc là, c'était un rendez-vous important, puisqu'on peut dire que le Festival Loop maintenant fait partie aussi des temps forts qui donnent à voir et à entendre la musique d'aujourd'hui et qui nous permet aussi, vous venez de citer un certain nombre de compositeurs, de découvrir le travail de compositeurs déjà bien sûr engagés dans un travail de longue durée, mais aussi de jeunes compositeurs. Alors Denis Boss s'aventurer justement dans un opéra, là aussi c'est une histoire d'aventure individuelle et collective. Et c'est pas rien de se lancer dans l'écriture et la conception d'un opéra.
Ah bah certainement pas. J'ajouterais et la production.
Et la production, vous avez raison.
Parce que là, c'est vraiment du début jusqu'à la fin,
ouais.
Où vraiment il a fallu tout prendre en main.
Oui, c'est ça.
Et donc, je voudrais juste peut-être préciser que c'était donc cet opéra une coproduction.
C'est ça.
Et que donc le Festival Ars Musica, bien connu à Bruxelles, était le commanditaire en fait de l'œuvre. Ainsi que l'ASBL Cardeton, qui est une ASBL qui a assuré la coordination de toute la production en participant elle-même à la production.
C'est ça. Et puis le Théâtre de la Balsamine aussi.
Et le Théâtre de la Balsamine, évidemment, qui nous a accueillis, qui est un théâtre extrêmement ouvert à la création. Mmh. Que je dois dire, vraiment, ça c'était un environnement idéal pour ce genre d'aventure. Hein.
Ça montre, quand vous évoquez toutes ces structures, qu'il était nécessaire justement pour pouvoir réaliser cet opéra que tous ces différents partenariats se travaillent, se mettent en place pour pouvoir réussir cette aventure.
Oui, c'est ça. Et alors j'ajouterais aussi qu'il y avait une dimension pédagogique dans dans la réalisation de l'opéra et que donc nous avons travaillé avec l'École supérieure des arts Art au Carré à Mons. Qui nous a énormément soutenus et nous avons comme ça engagé 25 étudiants en tout dans la participation à la création de l'opéra.
Donc là aussi, c'est une phase importante.
Il y avait des instrumentistes, certains ont fait les affiches, la vidéo, etc.
Oui, donc là vraiment déjà tout un partenariat très abouti et très important à différents niveaux. Et du coup, était-ce pour vous la première fois que vous vous lanciez dans l'écriture d'un opéra ?
Ah oui, ça c'était vraiment la première fois. c'était vraiment un baptême. Là.
Voilà, et vous ne le regrettez pas, j'imagine ?
Ah non, ça certainement pas. C'est une expérience qui en appelle d'autres, à mon avis.
Ouais.
Je dois dire, j'ai l'impression d'avoir découvert une partie de moi-même en faisant ça.
C'est ça. Oui, c'était quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps. En tout cas, il fallait créer les détonateurs, si je peux dire, mais c'était quelque chose qui était présent en vous depuis longtemps.
Oui, tout à fait. Ça fait plus de 10 ans qu'avec Pascal Noté, nous portions ça en nous et que nous cherchions à le faire, à trouver une forme qui corresponde à notre idée. Voilà. Donc c'est sûr que voilà, là, il y a eu peut-être un alignement stellaire favorable qui a permis de le créer.
Est-ce qu'il vous était arrivé déjà, une fois que l'idée, et on va y venir dans quelques instants, est pris forme, est-ce que la rencontre avec les lieux de diffusion habituels, hein, un petit peu de ce genre, de quel opéra, a été facile quand même, ou on a reçu votre idée assez favorablement, ou il a fallu quand même beaucoup défendre l'idée avant de trouver le lieu de diffusion? On a cité un certain nombre de partenaires là, mais est-ce que tous ont adhéré assez facilement à cette idée?
Donc, on n'a pas aussi cité l'ensemble Sturm und Drang, dirigé par Thomas Van
Buren. Oui, effectivement.
Donc, lui aussi s'est investi à la fois musicalement et financièrement dans le projet. Et c'est eux d'abord, donc les musiciens, qui se sont engagés et qui ont montré leur intérêt pour le projet. Mmh. Ensuite, il y a eu donc le Festival Ars Musica avec Bruno Letour, son directeur, qui a soutenu. Et puis, alors, à partir de là, tous les autres partenaires se sont... joint au projet, Art au Carré, et puis le Forum des compositeurs et son Festival Loop.
Donc là, effectivement, on voit que là, c'est important. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut tout cela pour que certains opéras puissent, en tout cas contemporains, puissent exister.
Disons qu'en fait, la spécificité ici, c'est que dehors des institutions traditionnelles de lieux
c'est
de production
de,
traditionnelles de, d'un opéra. Voilà, c'est vraiment un projet qui s'est auto-réalisé, je peux dire, en dehors des circuits traditionnels des maisons d'opéra, comme celui qu'on a ici à La Monnaie, par exemple.
C'est ça.
Même des théâtres plus petits.
Et vous pensez qu'au théâtre justement de La Monnaie, un projet comme le vôtre n'aurait peut-être pas pu aboutir de ce fait ?
Bah, je ne sais pas. En tout cas, on ne m'a pas donné la possibilité de,
c'est
de,
ça.
De voir si ça pouvait être possible.
Ouais, c'est ça. Donc là, il a fallu justement, on parlait d'aventure hein, quand j'évoquais justement voilà, cet opéra, votre opéra, La Lettre Volée. On voit bien qu'il en est ainsi à tous les stades et tous les niveaux et qu'il a fallu un engagement très important de chacun pour permettre son arrivée. Et en plus, si je ne me trompe pas, il a fallu refaire une autre représentation hein, par rapport à ce qui était prévu, donc un certain succès.
Ça a eu beaucoup de succès.
Voilà.
Donc, il a fallu rajouter une présentation supplémentaire qui n'était pas prévue au départ. Et donc ça, c'était formidable. Je
veux ça, dire, c'est formidable, effectivement.
Une surprise.
Ah oui, 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 une très belle surprise. Ouais. Alors, écoutez, ce que je vous propose, Denis Boss, avant qu'on puisse, bien sûr, avec Pascal Notet à vos côtés, rentrer un petit peu dans la fabrication de ce moment de cet opéra, écoutons peut-être déjà un premier extrait qui s'intitule « Les fouilles et la récompense ». Donc, extrait de « La lettre volée », opéra de chambre de Denis Boss.
Nous avons pris notre temps, nous avons cherché partout. Nous, un agent de police bien dressé, un tiroir secret, une chose qui n'existe pas. Tout homme qui permet par un tiroir secret de lui échapper est une. Siège, coussin, table, montant de lit, chaise, bâton de chaise, jointure, glace, lit, courtine, lit au tapis, maisons à gauche, maisons à droite, sol, biche, mousse.
Thank you. plus accablé que jamais. L'esprit complètement découragé.
Résonance sur Radio B avec La Lettre Volée, opéra de Denis Boss, créé au Festival Loop et au Festival Ars Musica à Bruxelles. Alors nous sommes toujours en liaison avec Denis Boss, compositeur, et Pascal Notet, philosophe et psychanalyste, poète, en liaison téléphonique depuis Bruxelles pour évoquer justement l'opéra de chambre La Lettre Volée, composé, imaginé par Denis Boss. Alors peut-être, Pascal Notet, je voulais essayer qu'on évoque ensemble en réalité ce qui a été peut-être l'élément un peu d'impulsion, de naissance, si je peux dire, dans l'immédiateté de ce projet d'opéra, puisque vous vous étiez retrouvés l'un et l'autre au café Falstaff. Alors déjà, avec Falstaff, on peut penser à l'opéra Bouffe, Verdi, à Falstaff aussi de Shakespeare aussi également, donc dans un lieu propice aussi à peut-être à imaginer des choses. En tout cas, vous rentriez d'une ou deux journées de travail avec des collègues et auxquels vous aviez travaillé aussi autour de la lecture de La Lettre Volée d'Edgar Allan Poe, et puis vous racontiez ceci à Denis Boss, et puis Les choses émergent. C'est un peu ça, Pascal Notet?
Oui, tout à fait. C'est comme ça que les choses se sont passées. Je revenais de deux journées de travail et dans l'enthousiasme de ce qui s'était passé là-bas, j'en faisais le récit à mon ami Denis Boss en reprenant l'argument de la lettre volée et les commentaires psychanalytiques, philosophiques qu'on pouvait faire à partir de
c'est
là.
C'est ça.
Et je l'entends encore me dire, mais ça ferait un très bel opéra, cette affaire-là. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a fait tous les deux, sans en prendre tout à fait la mesure, je crois, le pari de s'engager dans cette aventure, oui.
C'est ça. Peut-être en quelques mots pour nos auditeurs, même si c'est un texte très connu, la lettre volée donc d'Edgar Allan Poe, peut-être en quelques mots, peut-être, Pascal Notet, le sujet de cette lettre volée.
D'une reine qui reçoit une lettre. On apprendra que cette lettre a été écrite par un duc. Mmh. Et elle est en train de lire cette lettre dans son boudoir quand soudain le roi apparaît. Et visiblement, le roi ne doit pas voir qu'elle est en train de lire cette lettre. Mmh. Et elle n'a pas d'autre moyen de la soustraire à l'attention du roi que de la déposer sur la table, retournée. Mmh. Et malheureusement, ou heureusement pour la nouvelle, voilà que le ministre arrive et avec son œil de lynx, il repère ce qui se passe et il subtilise la lettre, à partir de quoi il peut exercer alors sur la reine un chantage. Mmh. Et sous la pression de ce chantage, la reine n'a pas d'autre possibilité que de faire appel au préfet de police de la ville de Paris pour essayer de récupérer cette lettre. Des fouilles gigantesques sont entreprises par le préfet de police, c'est d'ailleurs ce dont on a entendu tout à l'heure, et n'ont rien donné. Alors du coup, dans le plus grand secret, le préfet lui-même, aux abois, complètement désespéré, vient trouver le détective Dupin pour essayer que lui parvienne soit à lui donner le truc pour trouver cette lettre, et la nouvelle se termine comme ça. Je dirais à l'insu du préfet, sans que le préfet se rende compte, Dupin récupère cette lettre dans le bureau du ministre et il la rend au préfet qui, évidemment, va pouvoir la rendre à la reine. Voilà.
Voilà, tout à fait. Voilà. Et du coup, effectivement, on sait que c'est Baudelaire qui a commencé à traduire.
Oui.
Et puis après, Lacan, alors ça, on rejoint un petit peu, quand vous évoquiez tout à l'heure les côtés de psychanalyse ou philosophique aussi des choses, tout le travail qui est fait autour de cette lettre et cette notion aussi de lettre volée. Et finalement, c'est peut-être entre ces aspects philosophiques, littérature et psychanalyse que vous avez, vous, essayé de travailler un petit peu la chose. Par rapport à cette idée d'opéra, quand l'idée a germé justement dans la tête de Denis Boss.
C'est ça. En fait, Lacan, fin des années 50, avait fait un usage extrêmement important dans son enseignement de cette lettre volée de Poe. Il avait utilisé l'argument de la nouvelle pour avancer une proposition majeure dans son enseignement à l'époque, qui était formulée de la façon suivante. Il disait, Lacan, voilà, toute lettre, dans sa puissance symbolique, toute lettre arrive toujours à destination. Et il recourait à la nouvelle de Poe pour prouver, pour illustrer et prouver son propos, comme quoi, quand quelque chose a été écrit avec une puissance symbolique, eh bien, on peut éventuellement le détourner de son chemin direct, mais on ne peut pas empêcher que cette lettre arrive à destination. Ça, c'était la grande proposition de Lacan à l'époque, dans un séminaire qui date de 1956. Mmh. Et cette proposition était tellement importante dans son enseignement qu'il a utilisé ce travail sur la lettre volée comme texte inaugural de ses écrits qui datent de 1966. Mmh. Mais alors, parallèlement à ça, et d'un point de vue à la fois psychanalytique et philosophique, il y avait un débat qui était un peu important à l'époque où Derrida notamment a essayé de... Il n'a pas essayé, il a fait. Il a relu en même temps la nouvelle de Poe et la nouvelle et le commentaire que Lacan en avait fait pour déplacer un petit peu, pour questionner, pour déconstruire, pour mettre au travail la proposition lacanienne. Et Derrida, dans son propre séminaire, arrivait à une proposition sensiblement différente, disant... toute lettre peut toujours ne pas arriver à destination.
Ah, effectivement.
et donc, venant comme ça, inquiéter la puissance connaissance c'est métabolique,
ça.
En fait.
C'est ça, c'est ça.
Et moi-même, au fil des lectures et des années de travail autour de ce texte-là, de
oui.
Foucault, et parallèlement avec le travail avec Denis, on a essayé de se rapporter à la nouvelle de Pau en se laissant inspirer par ces deux propositions, et de Lacan et de Derrida, pour voir un petit peu comment est-ce que le texte de Pau allait nous revenir à partir du moment où on en faisait la lecture depuis ces deux points de vue.
Donc il y a eu un gros travail, je dirais, tous les deux, un petit peu de réflexion et de mise en forme un peu de ces deux approches. Ça a dû vous demander un certain temps, une certaine complicité de travail aussi à tous les deux.
Oui, à la fois du temps et la complicité de travail, qui je pense a été quelque chose de très important. Après, je dirais, l'enthousiasme un peu naïf du départ, il a fallu au moins implicitement... qu'on trouve, je ne sais pas comment dire ça, mais comment est-ce qu'on allait se saisir du texte de Pau pour pouvoir en faire un dialogue, parler et chanter dans
c'est
le cadre d'un opéra.
C'est ça.
Et une fois que cette décision a été prise, tout le travail a consisté à écrire ensemble le texte, parce qu'en fait... Rien du texte n'a été écrit sans que Denis et moi-même travaillions ensemble.
C'est ça.
De telle sorte qu'à mon avis, il y avait peut-être déjà, au moment où on écrivait le texte, une espèce de puissance musicale qui était implicitement convoquée dans la mise en dialogue de la nouvelle de Pau.
Oui, j'imagine. J'imagine hein, pour vous que Denis bosse petit à petit, au fur et à mesure comme l'explique Pascal Notet, comme il nous le fait vivre à travers son propos, que voilà, il y a quelque chose effectivement qui commençait de maturer, si je peux dire un peu comme ça, qui pouvait commencer à grandir en vous au fur et à mesure que cette écriture du texte se faisait avec Pascal Notet.
Oui, tout à fait. Disons que ça jouait beaucoup sur, je pense. La structure dramatique, à la fois musicale et dramatique. Voilà, c'était à ce niveau-là que ça se jouait, je pense. Qu'est-ce qui était en jeu ponctuellement dans chaque scène? Mais je dois dire aussi qu'on a essayé d'être très proche de la nouvelle de Pau au niveau de cette structure, qui, pour moi, comportait elle-même une dimension musicale au départ.
C'est ça. C'est ça. Vous aviez déjà, voilà, l'intention musicale au travers de sa propre nouvelle comme elle était. Il y avait déjà une force qui existait au travers des mots et de sa structuration et qui déjà pouvait être porteur aussi d'un sens musical.
Oui, c'est ça, parce que cette nouvelle, elle est, disons que sa forme est quand même assez étrange.
C'est vrai.
Puisque elle a plusieurs fins, je dirais. La nouvelle est résolue au milieu de la nouvelle, et ensuite elle est expliquée, et donc se retermine une deuxième fois. Et ça, on a essayé de le garder dans l'opéra. Donc la restitution de la lettre, ça se trouve au milieu, et puis ensuite, comment ça s'est passé pour qu'on récupère cette lettre, ça c'est la fin.
Voilà. C'est ça.
Donc c'est une structure qui est tout à fait dramatique, je trouve.
Oui, complètement. Alors je vous propose peut-être, tout à l'heure nous avons entendu un premier extrait, d'écouter maintenant « Jeu de père, impair et rap ».
Oh! mathématiciens, ils n'auraient pas raisonné du tout. Ils se seraient mis à la merci du préfet.
Eh bien, vous m'étonnez, la raison mathématique, c'est la raison par excellence.
Croyance populaire et sottise du plus grand nom, convention reçue et parfaite erreur.
Je conteste
la validité et conséquemment le résultat d'une raison cultivée pour tout procédé spécial, autre que la logique abstraite.
Je conteste
particulièrement le raisonnement tiré de l'étude des mathématiques.
Résonance sur Radio B pour rendre audible l'inaudible, pour accueillir toutes les capacités parlantes. Et nous venons d'entendre un deuxième extrait de l'opéra de chambre de Denis Boss, La lettre volée. Et là, peut-être Pascal Notet, nous sommes, si je ne me trompe pas, avec Jeu de père, impair et rap, au début du deuxième acte.
Oui, oui.
Hein, peut-être en quelques mots la situation, peut-être.
Voilà, alors en fait, donc c'est un jeu assez simple. L'un des deux partenaires a un nombre de billes paires ou impaires qu'il cache dans sa main et il demande à l'autre de deviner si c'est pair ou si c'est impair. Si l'autre devine juste, il a gagné. Si l'autre se trompe, ben voilà, il a perdu. Et alors, Poe, hein, il fait intervenir, il fait une allusion, il fait une description de ce jeu.
Oui.
Que par cet intermédiaire-là, il va nous faire comprendre comment Dupin s'y est pris pour réussir à deviner où la lettre avait été cachée par le ministre.
Voilà.
La morale de l'affaire, si je peux dire, c'est qu'au fond, pour pouvoir gagner à ce jeu de pair et impair, ce n'est pas une affaire de chance, comme dit le texte, c'est une affaire de raisonnement. Mais un raisonnement, comme on vient de l'entendre, qui n'est pas purement mathématique, un raisonnement qui va tenir compte du mode de pensée de l'adversaire.
C'est ça.
Et donc ce que Poe explique et ce que Dupin explique, c'est qu'il s'agit de s'identifier à l'adversaire pour deviner comment il pense et sur cette base-là, faire un tour de plus qui permettra alors de remporter la victoire, si vous voulez. Et c'est comme ça que Dupin, identifiant le ministre pas seulement comme mathématicien, pas seulement comme poète, mais comme et poète et mathématicien,
c'est ça.
S'identifiant à lui, il intègre son mode de pensée et parvient à deviner où et comment le ministre aura lui-même caché la lettre.
Voilà, alors donc du coup, merci beaucoup pour ces précisions, Pascal Notet, par rapport à l'extrait de ce que nous venons d'entendre. Et puis Denis Bosse, bien sûr, dans un opéra, il y a un certain nombre de chanteurs et on peut peut-être l'occasion justement de dresser les personnages qui sont présents. Il y en a six, hein, six chanteurs, oui. Six personnages. Oui. Le fou, hein, avec...
Le fou, oui, ça c'est un personnage que nous avons rajouté, disons, à la nouvelle.
Oui.
Parce qu'il nous semblait que justement... tous ces personnages, à un moment donné, en convoitant et en voulant s'approprier cette lettre, étaient touchés par la folie tour à tour.
Voilà, et donc c'est Sarah De Vries.
Sarah De Vries, oui.
Voilà, soprano, qui est dans ce personnage, effectivement. Oui. Et puis, Pascal Notet évoquait le personnage de Dupin, alors là, qui est
alors,
voilà,
Dupin,
l'autre
personnage. C'est une voix aiguë de contre-ténor.
C'est ça.
Qui avait été prise en charge par Nicolas Zielinski. Donc avec une virtuosité, puisqu'il devait chanter, mais aussi parler, chanter du rap, enfin voilà, c'était... Donc ça, c'était un rôle très important, évidemment.
Et puis, bien sûr, le préfet de police, tenu
le
par un ténor.
Police, donc Xavier de Lignerolles, qui est un ténor qu'on a pu entendre dans le premier extrait, notamment pour le,
oui.
Pour le moment des fouilles.
C'est ça. Ensuite, le ministre, baryton basse.
Voilà, donc là, le ministre... c'était un rôle un petit peu moins important, mais quand même très important néanmoins au niveau structurel.
C'est ça. Et ensuite, bien sûr, la reine, mezzo-soprano.
Oui, excusez-moi, j'ai oublié donc Chris Bellick. Donc le,
oui, pardon, n'oubliez de le citer, absolument.
J'ai oublié de dire son nom.
Absolument. Et donc la reine avec Anne Matic, mezzo-soprano.
Anne Matic, voilà la reine, et puis... Thomas Van Kalkenberg, donc le narrateur, donc qui lui servait, disons, de lien, de commentaire, une sorte de lien entre l'action et le public, une sorte de distanciation proposée au public.
Et puis, on peut remarquer une merveilleuse direction, en tout cas musicale, par Thomas Van Amperen aussi.
Thomas Van Amperen, oui,
voilà.
Et puis tout l'ensemble. Qui
et
est,
tout l'ensemble, qui est remarquable. Voilà, qui est vraiment qui fait un travail remarquable musicalement,
oui.
Et on entend bien de précision aussi,
oui.
Et donc de mise en valeur aussi de toute la dramaturgie et en même temps, je dirais du discours et de la parole. Hein, on entend bien notamment dans cet extrait, voilà toute cette prégnance aussi qu'il a eue dans la direction musicale.
Absolument.
Peut-être aussi.
Et d'autant plus difficile que la disposition de l'orchestre était particulière puisqu'il encerclait le public.
Ah oui.
Et donc il y avait quand même beaucoup de problèmes de.
Effectivement.
Il fallait donc pour pouvoir gérer tout ça, ça a demandé beaucoup de maîtrise.
Effectivement. Donc ça veut dire aussi une scénographie, Denis Bosse aussi mise en place aussi également pour cet opéra.
Oui, donc a assuré une scénographie très particulière puisque le public était sur scène, donc intégré à l'action.
C'est ça.
Comme j'ai dit, entouré par l'orchestre. Et il y avait entre le public des allées dans lesquelles les chanteurs pouvaient évoluer.
Mmh. Oui, donc il y avait vraiment le souhait que le public soit partie prenante, en tout cas de toute la scène, et vive de l'intérieur finalement un petit peu toutes cette nouvelle.
Je pense que ça correspondait au fait qu'il était lui aussi concerné par cette lettre volée.
C'est ça. Ça le mettait aussi en tant que personnage supplémentaire dans l'action. Et puis, certaines formes d'images par la scénographie, mais aussi par la vidéo, aussi également.
Voilà,
donc un autre élément.
On avait imaginé un concept un peu ambitieux, c'était de créer une vidéo qui pouvait être comme un personnage à part entière. C'est pour ça qu'on avait appelé cet opéra un vidéo-opéra.
Oui.
Et donc, il y avait un écran qui était suspendu au-dessus des spectateurs, donc au-dessus de la scène, disons, sur laquelle étaient projetées des images... Voilà. Alors là, je dois dire que on est encore en recherche par rapport à ce concept-là, et que, à mon sens, on peut aller plus loin encore dans la réalisation de cette idée-là.
Alors,
c'est Helga de Jager, une jeune étudiante diplômée de Haro Carré, qui avait assuré la vidéo.
Alors donc, du coup, on disait tout à l'heure que cet opéra a été créé lors de la 10e édition du Festival Loup au Théâtre La Balsamine à Bruxelles. L'idée aussi, c'est d'arriver à faire que cet opéra puisse continuer à vivre.
Bien sûr, en tout cas,
vous évoquiez encore à approfondir, on imagine bien encore le travail. Et y a-t-il des pistes aujourd'hui peut-être qui se font jour suite à ces premières présentations, Denis Bosse?
Oui, certaines idées en tout cas. et en tout cas cette volonté de proposer à de futurs producteurs vraiment cette recherche au niveau de ce concept d'intégration de la vidéo pour qu'elle soit beaucoup plus forte, voilà.
Voilà.
Donc oui, on a des pistes, on a des désirs surtout.
J'imagine. En tout cas, nous, on est très heureux que vous ayez bien voulu accepter cette invitation, l'un et l'autre, Denis Boss et Pascal Notet, pour nous parler justement de cette création, puisque cet opéra s'est créé, je le rappelle, chers auditeurs, au mois de novembre dernier, dans le cadre du Festival Loop à Bruxelles. Et voilà, c'est une chance un petit peu de partager avec vous, avec l'un et l'autre, un petit peu ce qui a présidé justement à la conception, à l'imagination de cet opéra, et puis déjà de pénétrer, comme vous nous le racontiez tout à l'heure, Pascal Notet, à vivre un petit peu plus de l'intérieur. Voilà ce qui sous-tend un petit peu toute la dramaturgie un petit peu de cet opéra, et puis de comment la musique aussi est venue épouser, grâce à ce travail très complice entre l'un et l'autre, pour faire naître justement cet opéra qu'est la lettre volée. Alors le temps, bien sûr, comme à l'opéra, nous est compté. Nous arrivons au terme de cette émission. Alors, je voulais vous remercier vraiment très sincèrement l'un et l'autre de nous avoir fait partager cette aventure, en tout cas.
Ben, c'est nous qui vous remercions vraiment d'un intérêt aussi approfondi, je dois dire, qui nous permet d'exprimer avec grand plaisir tout ce qu'on a à dire sur cet opéra.
En tout cas, prenons note, Denis Boss et puis Pascal Notet, que peut-être dans une des futures de nos émissions, on puisse peut-être poursuivre un peu sous des formes différentes, mais pouvoir parler encore de la lettre volée ensemble et d'accompagner peut-être la suite de ce beau projet qu'est la lettre volée. En tout cas, bonne continuité à l'un et à l'autre.
Merci beaucoup.
Cette émission a été réalisée avec la complicité de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr écouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org. Ou bien sûr sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous et très belle journée sur Radio B.